Et nous allons lire à partir du verset 10, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre esprit, que tu nous aides à comprendre ta parole, et que tu agisses en nos cœurs pour que nous soyons soumis et obéissants à ta parole pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Alors, chaque début d'année, hein, il est coutume de chercher des résolutions. Parfois, on lit des nouvelles résolutions, mais souvent, ce sont les mêmes que l'on reprend parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément tenu celles qu'on avait prises l'année d'avant. Alors, je ne sais pas si vous en aviez pris. Quel a été le bilan que vous avez tiré à la fin de cette année sur les résolutions que vous aviez prises? Et si vous en avez pris de nouvelles, c'est possible, hein? Cette année, je veux ta 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 ta. Hein. Et parfois, on a une liste de choses. Mais si vous deviez, allez, je m'adresse en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que personne qui s'intéresse à Dieu, si vous deviez donner une résolution, une principale résolution, peut-être celle qui résumerait votre résolution pour l'année. Quelle serait-elle? Peut-être penser, le formuler dans votre esprit, qu'est-ce que vous aimeriez cette année? Et c'est intéressant parce qu'il suffit d'ouvrir la Bible pour trouver plein de résolutions qu'on pourrait adopter. Puisque pratiquement chaque commandement de la Bible peut être considéré comme une résolution. Et on peut prendre chaque commandement comme une résolution. Les paroles que nous avons lues, là, ici, sont les dernières paroles connues de l'apôtre Pierre. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais si vous regardez comment se termine ce chapitre, c'est assez intéressant de considérer ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre écrit dans cette lettre, il dit qu'il écrit cette lettre pour que les chrétiens se souviennent toujours de ce qu'ils ont entendu. C'est ce qu'il dit, si vous regardez le chapitre 3, par exemple, hein, il dit, verset 1, il dit, « Bien-aimés, c'est la seconde lettre que je vous écris, et dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et par les apôtres, par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur, pardon, enseigné par vos apôtres. » Et donc, c'est tout ce qu'il fait. Et il écrit, il est à la fin de sa vie, hein. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il sait que l'heure de son départ est proche. Et il met toute son énergie à dire et à donner ce qui est le mieux pour ses lecteurs. Et certainement, les dernières paroles qu'il dit résument vraiment ce qu'il veut qu'il fasse. Et je veux lire ces dernières paroles, c'est le verset 18. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et c'est ça, si vous voulez, quelque part, la résolution qu'il leur laisse. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça pourrait être une résolution pour nous, que l'on peut répéter chaque année, parce qu'il s'agit ici de croître. Et c'est une très belle résolution. Si on regarde le contexte dans lequel l'apôtre écrit cela, il parle de la fin des temps. Verset 10, nous avons lu exprès à partir du verset 10, il est question de la fin des temps, du jour du Seigneur qui va venir, les cieux et la terre vont s'embraser. Et il dit que le croyant doit hâter et attendre l'avènement du Seigneur. Il donne un appel à considérer le temps même dans lequel on est comme le temps du salut. Verset 15, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur, c'est votre salut. » Autrement dit, le temps dans lequel on vit, c'est pas le temps de toutes les évolutions. Il dit « C'est le temps de patience de Dieu pour permettre le salut. » Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas perdre de vue cela. Chaque année que Dieu nous donne à vivre. Il dit, certes, il y a des moqueurs avec leur raillerie, et ils se moquent. Verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Il y a des gens qui disent ça, bon, ça fait des centaines d'années qu'on dit Christ va revenir. Les choses sont toujours comme elles sont. D'accord? Et on se moque. Il dit même qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures, trouvent que c'est difficile à comprendre, et ils disent que c'est incompréhensible. Et ils tordent le sens des Écritures. Et l'apôtre dit, mais ils le font au risque de leur propre ruine, de leur propre destruction. Et puis il termine en disant, mais vous, donc, bien-aimés, qui êtes avertis, qui connaissait toutes ces choses, il dit, tenez-vous sur vos gardes, verset 17, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il dit, attention, vous pouvez décliner de votre fermeté. Si vous vous laissez entraîner par tout ce que vous entendez, par tout ce qui est mis qui est rejeté par les hommes, par tout ce que l'on dit, par toutes les moqueries qui existent, par toutes les attaques que vous entendez contre l'évangile, par toutes les fausses doctrines qui se propagent, par ceux qui trouvent trop compliqué et trop difficile les Écritures et qui pas adapté à notre temps et qui rejette cela. Il dit, vous risquez de partir à la dérive. Alors, tenez-vous sur vos gardes. Et il dit, pour ne pas partir à la dérive, voilà ce que je vous laisse comme exhortation. Croissez la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça commence, le verset 18 commence par un mais. C'est un contraste qu'il établit. Il dit, tenez-vous sur vos gardes, attention à ne pas décliner, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le titre de ce message ce matin, c'est l'urgence d'une croissance spirituelle et continuelle. L'urgence ici d'une croissance spirituelle et continuelle. Ce pourrait être notre devise pour cette année, notre résolution pour cette année. Croître continuellement dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et cela, regardez bien, est présenté comme un devoir. L'apôtre Paul ne dit pas « il faut croître », il dit « croissez », un commandement. C'est comme si vous preniez un enfant qui est un bébé et puis vous lui dites « grandis ». Hein? C'est difficile, n'est-ce pas? On ne grandit pas par soi-même. Et c'est ce que Paul fait, il dit spirituellement « croissez ». Donc cela veut dire qu'il faut chercher à comprendre ce qu'il dit et à savoir comment on peut l'accomplir dans notre vie, parce que c'est extrêmement important. Il dit, sinon, vous risquez de déchoir de votre fermeté. Alors, on veut considérer trois choses ce matin. D'abord, l'importance d'une croissance dans la grâce. Deuxièmement, les évidences, ou les preuves, si vous voulez, d'une croissance dans la grâce. Et puis, troisièmement, les moyens d'une croissance dans la grâce. La grâce en question ici, hein, bien sûr, c'est la faveur imméritée de Dieu. Nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, cette faveur que nous ne méritons absolument pas et par laquelle Dieu envoie Jésus-Christ, comme on l'a vu ce matin, pour nous délivrer de nos péchés. Et cette connaissance n'est pas, quand il dit la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ, n'est pas l'accumulation de faits concernant Jésus-Christ, pas l'augmentation d'un savoir intellectuel concernant Christ, même si c'est important de connaître davantage ainsi, mais il s'agit plutôt d'une connaissance intime, d'un attachement de plus en plus grand au Seigneur Jésus-Christ, une connaissance intime. On peut savoir beaucoup de choses sur une personne sans connaître la personne. D'accord? Il y a des gens, on peut savoir beaucoup de détails de leur vie, mais on n'a pas de connaissance relationnelle avec cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc, quand il dit quoi dans la grâce, il dit que cette grâce salvatrice, elle doit agir en nous de manière à nous faire croître encore plus en elle. Et puis, il dit aussi que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi croître dans une relation de plus en plus étroite avec Jésus-Christ. Alors, premièrement, l'importance de croître dans la grâce. L'importance de croître dans la grâce nous est montrée parce que l'Écriture exhorte continuellement à cette croissance. La croissance spirituelle, la croissance dans la grâce, est une exhortation constante de l'Écriture. Déjà, si vous lisez quelques pages auparavant, 1 Pierre, on avait considéré cela, 1 Pierre chapitre 2, ici, et au verset 1, nous lisons « Rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On voit que l'apôtre Pierre demande de faire un certain nombre de choses pour croître dans le salut. Le but est de grandir dans le salut, de se développer dans le salut. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va voir juste quelques versets comme cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. L'apôtre Paul parle à ses frères et il dit au reste frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, Alors, c'est pas juste, vous devriez, il dit, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, comment de progrès en progrès. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous serez demain, ni après-demain, ni ce que vous avez été hier. Et quand on regarde, on doit voir le progrès. Et l'Écriture, partout, on pourrait trouver beaucoup d'endroits où il est question ainsi de marcher de progrès en progrès. L'apôtre Paul écrit à Timothée, qui est un jeune pasteur de l'église d'Éphèse. On a étudié cette première épître à Timothée tout au long de l'année dernière. Il dit ceci en 1 Timothée 4, verset 15. Il dit, verset 14, il dit, néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Il dit, occupe-toi de ces choses. Il parlait de la lecture, de l'exhortation, de l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il dit, l'Église doit voir que tu progresses spirituellement. Dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et on pourrait lire plein d'autres passages où il est question d'amour qui augmente, où il est question de plus en plus, où il est question que l'amour, que votre amour abonde toujours plus. L'apôtre Paul prie pour les Philippiens. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus pour le discernement des choses les meilleures. Il parle aux Thessaloniciens, il parle de leur foi qui augmente ici. Et donc, il est important de croître dans la grâce parce que c'est un commandement, en fait, de l'Écriture. On est exhorté à croître dans la grâce. Deuxièmement, c'est important parce que la croissance spirituelle est l'état normal du chrétien. La croissance spirituelle, c'est l'état normal du chrétien. 2 Thessaloniciens chapitre 1 et au verset 3, l'apôtre Paul dit, nous devons, frères, rendre de continuelles actions de grâce à Dieu. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Paul est en train de dire, nous rendons grâce à Dieu parce que vous êtes véritablement des croyants. C'est ce qu'il dit en fait, en substance. Il dit, parce que on voit la réalité de l'évangile dans votre vie par le fait que votre foi fait de grands progrès et que votre amour, dit-il, augmente de plus en plus. Donc quelque part, il dit, ça c'est l'état naturel d'un véritable croyant. Il doit avoir une foi qui progresse, une foi qui croît de plus en plus, un amour qui croît de plus en plus. Et nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens, au chapitre 1, les versets que nous avons lus ce matin, et où l'apôtre Paul parle de la foi des Colossiens. Il dit, c'est pour cela, Colossiens 1, verset 9, c'est pour cela, je vais vous lire, que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. C'est-à-dire, il y a cette dynamique de croissance dans la foi, dans la grâce. La croissance dans la grâce est importante parce que la croître spirituellement, c'est ce qu'il y a de plus normal pour un croyant. parce que nous recevons la nouvelle vie en Jésus-Christ, et le propre d'une vie, c'est de se développer. Le propre d'une vie, c'est de se développer. Ce qui est attendu d'un croyant, c'est pas juste qu'il dise « je crois », c'est qu'il progresse. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit « croissez dans la grâce ». 1 Pierre 5, 10, il dit ceci, ne cherchez pas, je vous lis, c'est juste à côté, il dit nous avons considéré ce verset-là comme verset doxologique pendant un temps. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous rendra inébranlable. Dieu va vous perfectionner. Cela montre que il y a une progression qui doit avoir lieu. Donc la croissance spirituelle, c'est l'état normal du chrétien. Et puis on peut dire aussi que la croissance, l'importance de la croissance dans la grâce est montrée par le fait que la croissance dans la grâce, c'est la preuve d'une bonne santé spirituelle. Quand une vie se développe, c'est la preuve qu'il y a une bonne santé. Si vous avez un enfant et qu'il ne grandit pas, qu'il ne prend pas du poids, qu'il ne grossit pas, qu'il ne se développe pas, vous allez tout de suite penser qu'il y a un problème de développement. Il y a un problème dans le processus même de cette vie. Parce que le propre de la vie, c'est de se développer. Et spirituellement, c'est pareil. Celui qui dit être l'objet de la grâce de Dieu, eh bien, la chose la plus évidente qui doit se voir, c'est la progression dans cette grâce. La croissance dans la grâce, c'est la seule chose qui dit qu'il y a une réalité et qu'il y a une véritable piété et qu'il y a une bonne santé spirituelle. Certaines personnes, parfois, font appel à leur salut initial, au jour où ils se sont convertis. Ça remonte à quelques dizaines d'années. Et puis, le jour de leur baptême, pour attester qu'ils sont de véritables croyants ou qu'ils sont en bonne santé spirituelle. Mais une expérience n'implique pas toujours une réalité. Une expérience n'implique pas toujours une réalité. L'Écriture témoigne que la bonne santé spirituelle se manifeste par la croissance dans la grâce. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu » parce que votre foi, elle bouge, elle monte. Votre amour, il augmente. Ça veut dire qu'il y a une vie véritable. Et pour cela, il dit « Je rends grâce à Dieu » parce que c'est bien sûr Dieu qui agit et qui permet cela. Et puis, quatrième chose dans ce premier point, c'est que qui montre l'importance donc de croître dans la grâce, c'est que la croissance dans la grâce, l'apôtre Pierre dit ici, c'est le seul antidote contre la dérive spirituelle. Voilà pourquoi il est important. Il dit, c'est où vous progressez, où vous dérivez. D'accord ? Il dit, tenez-vous sur vos gardes. De peur que vous ne soyez, verset 17, de peur que, qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce. Donc, la croissance dans la grâce est comme l'antidote, comme le remède absolu contre le déclin spirituel. Donc, c'est le seul antidote contre la dérive spirituelle. Il n'y a pas de position stagnante. Pas dire, bon, 2021, j'ai un peu stagné dans ma foi. Non, ça n'existe pas. On progresse ou on décline. Et pour ne pas décliner, il faut croître. Absolument. Ça, c'était le premier point que je voulais développer, l'importance de croître dans la grâce. Deuxième chose ici sur laquelle on peut se poser des questions, c'est quelles sont les évidences ou les preuves d'une croissance dans la grâce. Si on vous demandait, notez ce qui témoignent qu'il y a une véritable croissance, que la foi croît, que l'amour croît. Qu'est-ce que vous auriez noté ici? En plus, on pourrait dire croître spirituellement, c'est croître dans la foi. Oui, mais de manière plus précise, comment on chercherait à mettre en évidence une véritable croissance spirituelle dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Jésus-Christ? Bien souvent, on s'attarde aux apparences, n'est-ce pas, que l'on peut voir chez des personnes. Il y a une croissance dans la grâce parce que avant, cette personne ne venait pas à l'église et maintenant, elle est là plus souvent. Ça peut témoigner d'une croissance dans la grâce, mais ça n'est pas un signe qui dit quelque chose, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent venir régulièrement à l'église et qui ne sont même pas au Seigneur, qui ne sont pas de véritables croyants. Ici. On peut dire, le signe d'une croissance spirituelle, c'est que cette personne a été baptisée. C'est important. Mais le baptême, c'est une fois dans la vie. Et si c'est ça le signe, on se trompe. L'Écriture dit que on peut avoir l'apparence de la piété et renier ce qui en fait la force. Vous trouvez ça dans 2 Timothée 3, verset 5. Il parle de personnes qui ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles font qui pourraient laisser entendre qu'il y a une véritable piété, mais il dit, mais en fait, il n'y a pas de force dans cette piété. Donc, quels sont donc les traits distinctifs? On pourrait en trouver plusieurs. Je ne vais en citer que deux ou trois, peut-être. Premièrement, je voudrais dire que puisqu'il s'agit de croître dans la grâce de Jésus-Christ et dans la connaissance de Jésus-Christ, on peut comprendre que les preuves, les évidences d'une croissance dans la grâce sont montrées par une proximité plus grande ou une ressemblance, on pourrait dire, plus grande avec Jésus-Christ. Donc, il faudrait chercher en Jésus-Christ les traits qui devraient se retrouver dans le croyant. Okay. Un peu comme, vous rappelez, lorsque Pierre et Jean et puis étaient au temple et puis ils ont prêché à Jérusalem, ils ont été arrêtés par le Sanhédrin, ils sont passés devant et puis à un moment donné dans le livre des Actes, on lit quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, quand les membres du Sanhédrin ont vu l'assurance, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire quelque chose dans leur attitude, dans leur assurance, a laissé entrevoir Jésus-Christ. Lorsque Hérode a entendu parler de Jésus, il a dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Ça veut dire qu'il y avait probablement dans les deux des choses qui se passaient qui étaient identiques. Et donc, par conséquent, pour nous, les preuves d'une croissance dans la grâce sont les signes qui montreront une plus grande proximité, un plus grand attachement, une plus grande ressemblance avec Christ. Parce qu'après tout, c'est ce que Dieu est en train d'accomplir. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, l'apôtre Paul dit, et puis il dit qu'il les transforme jusqu'à les rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est tout le projet de Dieu, de nous rendre semblables à l'image de Christ. Donc, une croissance a pour but de nous rapprocher davantage de Jésus-Christ. Et donc, on pourrait dire que une évidence d'une croissance dans la grâce est montrée par l'amour que l'on a pour Dieu et pour les autres. Parce que Jésus-Christ manifestait l'amour même, l'expression même de l'amour de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord ? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, Christ, a montré cet amour qu'il avait pour le Père. Et cet amour qu'il avait aussi pour les hommes, pour ses disciples, et puis pour les hommes, pendant tout son ministère sur la terre. Et donc, une évidence de la croissance, c'est l'amour qui augmente de plus en plus pour Dieu, mais aussi pour les frères. D'ailleurs, qui augmente pour les frères? Parce que la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Autrement dit, l'amour pour Dieu se mesure par l'amour pour les frères. Parce qu'il dit, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et Dieu veut être aimé dans l'amour que nous manifestons pour les autres. Jésus dit qu'à la fin des temps, quand Dieu mettra de côté les boucs et puis les brebis, d'accord, il dira aux uns de s'en aller loin de lui, et puis les autres, il va les accueillir, et il dira, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade et vous m'avez vêtu, j'étais en prison et vous m'avez visité, et puis ils diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison? Et Jésus dira, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Croître dans la grâce, c'est croître dans l'amour pour Dieu et particulièrement dans l'amour pour les autres. Il dit pas dans l'amour que j'exige de la part des autres. Parce que souvent on en est à là. Ah, un tel n'aime pas. Ces personnes n'ont pas d'amour dans leur cœur. C'est pas ça que Dieu nous demande. Il demande quel est notre amour pour les autres. Croître dans la grâce, c'est croître dans l'amour que j'ai pour les autres. Un amour réel, un amour qui grandit. Pas simplement un amour en parole, mais un amour en vérité, dit l'apôtre Jean, et en acte d'amour. Voilà. Un amour qui ne progresse pas, c'est pas un amour. Si je dis à ma femme, bon, je t'aime. Quelqu'un me dit, ouais, je t'aime, je lui dis ça une fois par semaine. Okay. Puis je dis, allez, je vais augmenter dans mon amour, je vais lui dire deux fois par semaine. Je t'aime. D'accord. C'est pas de gros progrès, c'est pas un progrès du tout. Hein. L'apôtre Jean dit, c'est pas simplement dans les paroles que l'on doit manifester cet amour. Mon amour doit augmenter en acte, vraiment. C'est-à-dire, bien sûr, il faut dire des choses, mais cela doit se manifester par des actes concrets. Quelqu'un disait que les sentiments d'amour naissent des actes d'amour. J'aime, je le montre par des actes, et puis je le montre toujours plus. Toujours plus. D'accord ? Si ma femme me dit, mais tu ne m'aimes plus, et puis je dis, mais rappelle-toi l'année dernière, il y a 8 mois, je t'ai dit, je t'aime, c'est que je t'aime. Ouais. Non, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose qui doit augmenter. Ce que je deviens de plus en plus attentionné, de plus en plus affectueux, je fais de plus en plus attention, j'aide de plus en plus. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on pourrait dire ici. Mais il y a des choses qui montrent que, eh bien, cela grandit. Il grandit dans une disposition à se soucier des autres, à leur faire du bien, à prier pour eux, par exemple. Et il témoigne souvent d'une plus grande patience. On n'a pas le temps de lire 1 Corinthiens 13, mais lisez 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne soupçonne pas le mal. On a tous ces traits caractéristiques de l'amour qui nous sont donnés ici. Il y a un auteur qui dit ceci, il dit, il n'y a pas de signe plus sûr de recul qu'une disposition grandissante à trouver, il dit, des défauts chez les autres et à ne pas les aimer. D'accord. Et qui fait qu'on ne les aime pas. Hein. On doit toujours être prêt à aimer. Donc c'est comme ça que ça c'est un signe, une évidence que l'on grandit spirituellement. Que notre amour pour tous grandit. Ceux, même ceux qui nous causent le plus de problèmes. On les aime, on prie pour eux. On va vers eux. on pense à eux, on a des attitudes et des gestes à leur égard qui montrent que nous les aimons, eh bien, c'est la preuve que nous croissons dans l'amour et donc dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est une première. Mais une seconde évidence, c'est l'humilité aussi. L'humilité. Christ était marqué par une profonde humilité. L'apôtre Paul le dit très clairement dans Philippiens chapitre 2, quand il parle de Christ qui était en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et juste avant de dire ça, il dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et donc celui qui croit dans la connaissance de Christ et dans la grâce de Christ, il croit dans l'humilité aussi. Ce qu'on trouve naturellement chez les hommes, c'est l'envie, l'esprit de parti et les vaines gloires. Malheureusement, même chez les chrétiens aussi. Ce que l'apôtre Paul dit à Philippiens, donc regardez un tout petit peu ce passage, Philippiens chapitre... On peut regarder Philippiens au chapitre... Je vous fais chercher parce que j'ai pas envie que vous endormiez. Philippiens chapitre 2 et au verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc il parle ici de l'esprit d'ambition et de l'égocentrisme. Et il dit que l'antidote à tout cela, c'est l'humilité. Parce que l'humilité reflète véritablement Christ. Et naturellement, nous ne sommes pas humbles. Parfois, on entend des gens qui disent « Oui, c'était un homme humble. » Ça n'existe pas à l'état naturel. Ça n'existe que par l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie et dans le cœur. Quelqu'un faisait remarquer, quand on nous montre une photo, n'est-ce pas, de classe, d'il y a longtemps, et la première personne qu'on cherche sur la photo, c'est pas le petit camarade, mais c'est qui? On cherche à savoir où on était sous la photo. C'est un peu naturel, n'est-ce pas? Parce que on a envie de se voir là-dessus. La première personne qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. C'est nous, mais pas les autres. Et il faut la puissance de l'évangile pour nous transformer et pour nous rendre comme Christ et progresser jusqu'à avoir un véritable intérêt pour les autres. On croit dans la grâce quand on croit dans l'humilité. Plus la grâce se développe, plus l'humilité se développe et plus on est déçu de soi-même. Et quand vous écoutez, même parmi les croyants, des chrétiens qui se plaignent toujours des autres. Jamais d'eux-mêmes. On se plaint toujours de son époux ou de sa femme, jamais de soi-même, de ses enfants, jamais de soi-même. On se plaint des frères et sœurs, on se plaint des anciens, les anciens se plaignent des membres, et jamais de soi-même. Pourquoi ? Parce que on a besoin de grandir dans l'humilité. Mais celui qui croit dans la grâce de Dieu, il se plaint de lui-même, il est déçu de lui-même et pas des autres. Écoutez l'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit « Je suis le premier des pécheurs ». Il dit pas « Les autres sont des pécheurs ». Oh Seigneur, heureusement. Non, ça c'est le pharisien qui dit ça, n'est-ce pas? Ah, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. Mais l'apôtre Paul, quand il pense à lui-même, il dit « Moi, je suis le plus petit des apôtres, je suis... » le premier des pécheurs. Ésaïe, quand il a une vision de Dieu, il dit « Je suis un homme pécheur », mais il dit « Mais un homme dont les lèvres sont impures ». Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses chaussures ». L'apôtre Pierre, il dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Chaque fois qu'ils disent « Je suis », c'est pour dire comment ils sont déçus de leur capacité, de leur... Mais il arrive que quand nous nous écoutons, nous sommes beaucoup plus déçus par les autres que par nous-mêmes. On dit, oui, certes, je sais, je ne suis pas comme il faudrait, mais l'autre
C'est pire. N'est-ce pas ainsi que nous parlons? C'est vrai, je reconnais. J'ai des progrès à faire. Mais enfin, on ne peut pas me dire que lui, il fait comme il devrait faire. Ou alors, depuis le jour qu'il entend la parole de Dieu, on voit dans sa vie, il n'y a pas de changement là. Il devrait agir différemment. C'est toujours les autres le problème. Mais quand on croit dans la grâce de Dieu, la Bible dit que c'est nous qui devenons le véritable problème. Alors, est-ce que nous avons passé notre année à penser aux autres et aux progrès qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait? Ou est-ce que nous avons eu le regard plutôt sur nous-mêmes? Et nous avons frappé notre poitrine comme ce publicain qui dit « Moi, pécheur ». Est-ce que nous avons dit « Je ne suis pas digne » ou est-ce que nous avons critiqué les autres? C'est que nous avons besoin, si tel est le cas, c'est que nous avons besoin de grandir encore davantage dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, en ayant une humilité qui se développe davantage. Et puis, très rapidement, on pourrait rajouter comme autre preuve encore la manière que nous avons de traiter le péché dans notre vie. Ça, c'est une chose. L'apôtre Pierre, il le disait, hein, chapitre 2, on a lu tout à l'heure, verset 1, quand il dit « Rejetant donc toute méchanceté, la ruse, la dissimulation », d'accord, il dit « Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez ». Donc, on désire le lait qui fait croître, d'abord en rejetant toute malice, en rejetant le péché. Donc, on croit aussi en traitant convenablement le péché dans notre vie et en pas en le caressant, en le rejetant. Quand Dieu nous révèle que quelque chose est un péché, nous devons nous repentir, demander pardon et l'abandonner. Et l'abandonner. Parfois, je parle avec des personnes qui me disent « Oui, je sais que je pêche. Je sais que c'est pas comme ça que je devrais faire. » Mais Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Voilà. Mais la grâce nous enseigne quoi? Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans la piété. D'accord? Donc, quelqu'un dans la vie duquel la grâce croît, c'est quelqu'un qui traite convenablement le péché dans sa vie. J'avance, chers frères et sœurs. Troisièmement, ici, quels sont les moyens que nous avons pour croître dans la grâce? La grâce de Dieu est un... La grâce est un don, bien sûr, c'est une grâce. Hein. Et même la croissance dans la grâce, c'est quelque chose que Dieu fait en nous. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Il la commence, il la continue et il l'amène à perfection. Donc c'est Dieu qui œuvre et qui le fait. Néanmoins, il utilise des moyens pour le faire. Et il donne des moyens pour le faire. Donc, même si croître est un don de Dieu, même si croître est un don de Dieu, nulle personne ne peut croître sans travailler, on pourrait dire, ou sans appliquer, utiliser les moyens que Dieu donne. L'apôtre Paul lui-même, il dit, quand il parle de la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ceci. Il dit au verset 10, au 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Il se rappelle ce qu'il était, ce qu'il est maintenant, et tout le chemin qu'il a fait, il dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Il dit « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas toutefois, moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Vous voyez ça ici, hein? Il dit, j'ai la grâce de Dieu me fait progresser, mais j'ai travaillé, en fait. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Mais en tout cas, il a travaillé, il a fait des efforts. Il a utilisé ce que Dieu a donné. Il a traité durement son corps. Il a fait toutes ces choses. Et donc, quels sont les moyens que Dieu donne? Pour croître dans la grâce, il faut utiliser absolument les moyens que Dieu donne. Et un des premiers moyens que Dieu donne, c'est la lecture de l'Écriture, la méditation de l'Écriture, personnelle et particulièrement en privé. Ça, c'est une chose. Souvent, quand on arrive en fin d'année, on n'a pas eu le 31 décembre, mais on demande qui a pu faire sa lecture tout au long de l'année, a pu lire la Bible en un an ou a pu maintenir régulièrement sa lecture. C'est pas toujours évident, hein, n'est-ce pas? Il y a eu certainement des ratés. Je suis sûr que si je demandais qui a eu des ratés, moi, je lèverais le doigt, déjà, premièrement, d'accord, dans notre lecture quotidienne. Mais combien c'est important? Il est absolument impossible de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ sans une lecture régulière, assidue de l'Écriture. C'est exactement ce que Paul dit à Timothée, même si, quand il parle de lecture publique, mais néanmoins, il dit ceci à Timothée, je vous lis, il dit, « Jusqu'à ce que je vienne, en 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Et au verset 15, il dit, « Occupe-toi de ces choses. » Donc, ça veut dire la lecture aussi, hein, l'exhortation, l'enseignement. « Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents. » Autrement dit, il n'y a pas de progrès possible sans une application dans ces choses. Et on voit ici une application dans la lecture de la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre, quelqu'un disait ceci, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit avant de savoir ce que Dieu dit. Enfin, on veut avoir des compréhensions des choses, des Écritures. Mais on ne veut pas lire les Écritures. C'est impossible. La lecture régulière, assidue, journalière est quelque chose d'absolument indispensable. Ça doit être un objectif chaque année, si nous voulons croître dans la connaissance. Sinon, nous allons régresser. Une lecture assidue, doublée d'une méditation réfléchie de la parole de Dieu. Il faut penser à ces choses que nous lisons. Il faut les ruminer. Jésus a dit, en citant le Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est une question de vie ou de mort, en fait, spirituelle. S'il n'y a pas d'écriture, s'il n'y a pas de méditation des écritures, il n'y a pas de possibilité de progresser. Il y a un auteur qui a dit « La Bible est inspirée, mais elle n'est pas magique. La parole ne s'envole pas d'une page de la Bible pour venir, paf, dans notre cœur, dans notre esprit. » Il dit « Il faut travailler, il faut méditer, il faut étudier pour que cela puisse nous faire du bien. » C'est comme la nourriture, hein. La nourriture ne vole pas de l'assiette jusque dans notre corps. Il faut faire des efforts, aller la piquer dans l'assiette, la ramener dans la bouche, d'accord, et puis mastiquer tout ça pour le rendre assimilable à notre corps et puis l'avaler pour que ça puisse nous faire du bien. Spirituellement, c'est exactement la même chose avec l'écriture. Donc il s'agit d'un travail personnel et privé que nous devons faire continuellement, si nous voulons progresser. À cela, il faut ajouter aussi la prière. La Bible parle bien sûr de la prière. Elle dit quand tu pries, rentre dans le secret. Tu pries, ton Père qui est dans le secret, Dieu qui est dans le secret te le rendra. La lecture, la méditation, la prière, la dévotion, tant d'adoration personnelle. On appelle ça le culte personnel. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument insister. C'est notre nourriture. Sinon, nous ne croîtrons pas dans la grâce. Et puis, il y a aussi l'utilisation, deuxième moyen, des ordonnances que Dieu donne. Le baptême et la Sainte-Cène. Ce sont des choses, parfois, que l'on voit, parfois dans les églises, on considère le baptême d'une certaine manière et la Sainte-Cène d'une manière qui ne sont pas scripturaires. Ce sont des ordonnances que Dieu a données. On appelle ça souvent, parfois certains théologiens appellent ça des moyens de grâce. C'est des moyens qui nous permettent de progresser dans la grâce de Dieu, que Dieu nous donne. Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, le croyant doit se faire baptiser. C'est une anomalie, je le dis souvent, un croyant qui n'est pas baptisé, qui refuse de l'être.
Peut-être qu'il y a des temps pour chaque chose, il faut du temps pour les préparations, mais néanmoins, quelqu'un qui croit en Christ doit se faire baptiser. C'est un moyen que Dieu donne et qui montre une certaine croissance aussi dans la grâce de Dieu. Mais aussi la participation à la Sainte Cène. Parfois, des personnes disent, je sais que je vis pas comme il faut, donc je ne touche pas à la Sainte Cène parce que c'est saint, ça. Mais en vivant comme ça, on est en train de décliner, on ne progresse pas dans la grâce parce que qu'est-ce qui nous empêche de participer à la table du Seigneur si on est un enfant de Dieu? Ce ne peut être que le péché. Ce ne peut être que le péché. Même une, si on dit oui, mais je comprends pas bien ce que c'est que la scène, etc. C'est un péché parce que Dieu demande de le faire et tu ne le fais pas. Tu ne te demandes pas de comprendre forcément tout de suite tout ce que c'est. Ta connaissance grandira. Tu te demandes d'obéir. Et si c'est parce que on préfère garder notre petit péché que l'on a, eh bien, voilà, il faut mettre ces choses en règle avec Dieu. Donc, on est en train de stagner. On n'est pas en train de dire je suis tellement saint que je respecte la table du Seigneur, je n'ose pas m'approcher parce que je sais que je ne suis pas digne ou que je ne vis pas comme il faut. On est en train de régresser, de déchoir de notre fermeté au lieu de progresser dans la connaissance parce que c'est un moyen que Dieu nous donne pour progresser. Quand on doit s'approcher de la table du Seigneur, on cherche dans sa vie, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? On demande à Dieu pardon, on se repent. Et ça, ce sont des marques de progrès. Le pécheur qui se repent est un pécheur qui progresse. La Bible ne dit nulle part que les chrétiens ne pêchent absolument pas, qu'ils ne pêcheront jamais. Si nous disons ça, nous mentons, dit l'apôtre Jean. Mais celui qui pêche, il se repent ici. Donc ça, c'est des moyens que Dieu nous donne et qui nous permettent de grandir. Donc nous devons tout faire pour pouvoir participer à la table du Seigneur et nous mettre en règle avec Dieu, là où il faut, nous repentir, abandonner le péché pour pouvoir participer. Et puis, dernière chose que je vais ajouter comme moyen, c'est l'Église et la communion des saints. C'est quelque chose que Dieu donne aussi pour la croissance, l'Église et la communion des saints. Et c'est quelque chose sur lequel nous faisons, mais alors, excusez-moi de le dire, mais pour certains d'entre nous, c'est le cadet de nos soucis. On peut annuler une rencontre, un culte, un rassemblement. Parfois, ça arrive pour n'importe quoi. Quand Dieu, au début de l'Église primitive, sauve les gens, la Bible dit, et le Seigneur, acte 2, 47, je crois, acte, les Seigneurs plaçaient à l'Église tous ceux qu'il avait, ajoutaient à l'Église ceux qu'il avait sauvés. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans la croissance, dans la grâce. Il n'y a pas de croissance dans la grâce sans vie d'église. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors bien sûr, personne n'est parfait dans l'église. Les anciens encore moins parfaits dans l'église. Mais c'est la structure dans laquelle Dieu a prévu que nous grandissions aussi dans la grâce. C'est lui qui l'a voulu et prévu ainsi. Et c'est décliner et déchoir de sa fermeté que de ne pas chercher à utiliser profondément ce moyen de grâce que Dieu donne. L'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais en tout cas, l'Épître aux Hébreux nous dit, le Saint-Esprit nous dit, à travers l'Épître aux Hébreux, je vous lis ceci. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Autrement dit, le lieu où on doit veiller les uns sur les autres, c'est aussi la communauté, c'est l'Église. Et c'est pour cela qu'il est important que nous nous soumettions à cela. Et je peux dire que peut-être c'était difficile pour nous en 2021, mais que ce soit au moins un objectif pour nous en 2022, de dire, Seigneur, je ferai tous mes efforts, pour veiller sur les autres comme tu me le commandes, en m'associant et en participant aux rencontres, parce que je veux progresser dans la grâce. Ce sont des choses que Dieu nous donne. Et nous ne pourrons pas progresser si nous ne les utilisons pas. Et si nous ne les utilisons pas, nous ne progressons pas. Et si nous ne progressons pas, nous régressons. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Donc en quittant ses frères, il dit, mes frères, croissez dans la grâce. Faites tous vos efforts pour croître dans la grâce. Utilisez tous les moyens que Dieu vous donne pour croître dans la grâce. Quand vous vous rencontrez entre chrétiens, parlez, cherchez la communion des saints dans les foyers, n'importe où, mais faites tout ce que Dieu, utilisez tout ce que Dieu donne pour grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Sinon, vous allez déchoir. Tout progrès demande des efforts, chers frères et sœurs. Parfois difficile, l'apôtre Pierre dit, Paul dit des choses difficiles à comprendre. Mais il dit pas que c'est impossible à comprendre. Ça veut dire, il dit qu'il faut faire des efforts pour les comprendre. Mais il faut chercher à les comprendre. Parce que ne pas les comprendre, c'est une question de vie ou de mort. Regardez ce qu'il dit. Je vous relis le passage. Il dit, dans 2 Pierre, que nous avons lu, chapitre 3, verset 15, il dit, verset 16, il dit, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres où il écrit, il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, ils le font pourquoi ? Pour leur propre destruction. Donc le rapport qu'on a à la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu, dans sa réception, dans sa compréhension, dans la croissance dans cette parole, c'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est une chose qui est donc très importante à considérer ici. Et c'est pour cela qu'il faut chercher à progresser, à nous exposer à l'explication de la parole, pour qu'on puisse comprendre toujours davantage, même quand c'est difficile. Faire des efforts pour comprendre. Sûr, c'est plus facile de regarder un film, c'est plus facile d'être sur les réseaux sociaux, c'est plus facile de regarder la télé. Tout ça, c'est plus facile. Mais ça mène à la ruine. Ça mène à la ruine. Seul l'effort pour comprendre la parole de Dieu, pour saisir ce qu'il a dit, pour chercher à progresser en utilisant tous les moyens que Dieu nous donne, nous permettra d'agir, comme il dit ici, à la gloire de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Je voudrais juste dire une chose. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Il est impossible de croître dans la grâce avant d'être touché par la grâce de Dieu. Mais vous pouvez venir à Christ parce qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, sans argent, venez !» Et je vous donnerai des mets, Isaïe 55 lui dit, des succulents. Venez, je rassasirai votre âme. Et aujourd'hui, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est le jour du salut. On l'a dit, l'apôtre Pierre dit, c'est le temps du salut aujourd'hui. Dieu patiente, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Croyez que la patience de notre Dieu est votre salut. Mais il dit, mais attention, un jour viendra où les éléments embrasés se dissoudront. Ça s'est arrêté. Pour les croyants, il dit combien votre piété doit être saine. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il dit combien vous devez vous dépêcher de venir à lui et de recevoir cette grâce qu'il offre. Je ne sais pas quelle est votre résolution pour 2022. Mais commencez par recevoir Christ. Venir à lui. Croire en lui, placer votre confiance en lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, commençons par appliquer pleinement ce qu'il nous dit dans sa parole et cherchons à croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, en nous attachant à lui davantage à travers sa parole, en nous exposant à sa parole et en utilisant tous les moyens qu'il nous donne, pour grandir dans l'humilité, dans l'amour, à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et nous te prions que ton esprit rende ces choses que nous avons dites encore plus pertinentes dans nos cœurs, et nous remplisse du saint désir de grandir dans la grâce et la connaissance, dans ta grâce et dans ta connaissance. Donne-nous de ne pas nous contenter et nous complaire dans l'état dans lequel nous sommes, de ne pas nous croire arrivés, mais de savoir que nous avons besoin chaque jour de te connaître davantage et que plus nous grandissons dans ta connaissance et dans ta grâce, plus nous voyons nous-mêmes à la lumière de ta parole. Détourne nos yeux des autres pour les critiquer et fais-les reposer sur nous-mêmes pour voir tous ceux dont nous avons besoin, combien nous avons besoin d'aimer, combien nous avons besoin de grandir dans l'humilité, de nous humilier. Seigneur, agis en nous par ton esprit pour la gloire de ton nom. Amen.